Vous avez remarqué? Les Jeux Olympiques et Paralympiques approchent à grands pas. Ça va être un moment génial, de fête, de célébration évidemment. Et je ne sais pas dans vos cercles, mais de mon côté, une bonne partie de mes amis parisiens préparent leurs vacances d'été et se posent la question de mettre leur appartement sur Airbnb à cette occasion. Ça pourrait financer au moins en partie leurs vacances, alors ça tombe sous le sens qu'ils y pensent. De mon côté, c'est certain, je serai à Lisbonne, donc mon appartement parisien, dont je suis propriétaire, sera sur Airbnb pour cet été, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. D'ailleurs, ça me permettra de financer, en partie, mes vacances. Et vous? Imaginez ce que vous pourriez faire avec ce supplément de revenus. En réalité, votre logement pourrait rapporter plus que vous ne le pensez. Découvrez combien sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte, H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant.
Je pense qu'il y a un sujet sur lequel tout le monde est sensible, et c'est la confiance en soi. Et pour en parler, je reçois Charles Pépin. Charles Pépin, c'est un philosophe qui a écrit plusieurs bouquins, dont « Les vertus de l'échec » et « La confiance en soi ». Et donc, avec lui, on va parler évidemment d'échec, mais aussi de confiance en soi, du syndrome de l'imposteur, bref, de tous ces sujets qui vous touchent, je suis certain, à peu près tous les jours. Je suis Grégory, vous êtes sur Vlan. Allez Vlan, c'est parti.
Donc, bonjour Charles Pépin.
Bonjour.
Donc en fait, vous avez écrit plusieurs bouquins, mais entre autres, deux bouquins, un sur l'échec, un sur la confiance en soi, et on va parler de ça. Et la première question que je me pose, et que j'ai trouvée un peu intéressante en tout cas, c'est que vous dites que l'échec, ça permet d'être plus heureux. J'aimerais comprendre comment l'échec pour rendre heureux.
Alors c'est évidemment un peu rapide comme énoncé, ça fait souvent souffrir et ça rend malheureux, mais ça peut être l'occasion de mesurer qu'on a une ressource de joie de vivre finalement, ou de persévérance, ou de combativité, qui est plus grande qu'on ne le pensait, et que finalement on mesure à l'occasion de l'échec. Donc du coup, une première idée c'est que ça nous rappelle un élan vital qu'on a en soi et qu'on pourrait pas mesurer hors l'échec. Et puis il y a aussi le fait que parfois ça nous aide à nous recentrer sur l'essentiel. On se dit voilà, j'ai raté tel concours, j'ai raté telle promotion, mais je m'entends hyper bien avec mes enfants, mais j'ai des belles histoires d'amitié, mais je suis amoureux. Et finalement on oublie l'essentiel parce qu'on poursuit des lièvres qui au fond nous aveuglent et qui nous divertissent, quoi. Donc ça c'est la deuxième raison. Et puis il y a un truc beaucoup plus simple, je trouve, c'est que sans mesurer une ressource comme ça de combativité particulièrement intense, souvent ce qui se passe, c'est qu'on connaît un échec, ou une désillusion, ou une blessure d'ego, et on se rend compte que finalement, même si c'est désagréable, on a encore une forme de confiance en la vie, en l'avenir, et on continue à trouver la vie assez belle, et finalement on mesure que la confiance qu'on a en la vie est plus grande qu'on ne le pensait, parce qu'on n'aurait jamais pensé qu'elle résisterait ainsi à l'échec, et finalement elle y résiste. Donc c'est comme une sorte de test en fait pour le désir de vivre l'échec.
Et est-ce que c'est pas une... En fait, est-ce que l'échec, c'est pas une vue de l'esprit? Est-ce que c'est pas une manière d'envisager le monde? Ou est-ce que c'est de manière concrète
Je pense quand même qu'il y a une objectivité de l'échec. Mais cette objectivité n'a de sens que si elle est accompagnée d'un sentiment subjectif d'échec. Par exemple, vous pouvez parfois échouer, mais n'avoir aucun sentiment d'échec. Dans ce cas-là, c'est pas un échec. Donc il y a échec quand il y a, on va dire, deux choses. D'abord, une rencontre entre un projet et une réalité qui s'est mal passée. Et puis, un sentiment d'échec. Donc dans ce cas-là, c'est quand même réel, c'est pas simple, mais simplement une vision du monde. En revanche, là où c'est intéressant, c'est qu'on peut travailler sa vision du monde, sa représentation du monde, pour se demander si finalement c'est si grave que ça, pourquoi je le prends si mal, pourquoi je le vois comme ça, est-ce que je pourrais pas le voir autrement? Mais attention, quand je dis ça, je précise tout de suite, il s'agit pas d'une manipulation mentale, il s'agit pas simplement de voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Il s'agit d'aller chercher l'émotion ou l'affect qui va nous libérer. Et souvent, cette émotion, elle peut être négative. C'est-à-dire que je suis pas du tout pour une psychologie outrageusement positive. Je pense qu'il faut accepter aussi dans l'échec une part de souffrance, une part de désagrément, quoi. Et qu'il y a une manière de l'accueillir qui fait que ça se transforme en joie et en positif, quoi. Mais par contre, il faut l'accueillir, il ne faut pas le refouler, il ne faut pas le nier. Donc voilà, c'est désagréable d'échouer, ça fait mal. Et simplement, il se trouve que que l'existence, c'est aussi ça, qu'on n'est pas en train de surfer comme ça tout le temps à la surface des choses, et que le fait d'endurer cette difficulté nous reconnecte à la réalité et nous fait apprécier peut-être plus la vie, quoi.
Est-ce que c'est lié à notre culture française ? Parce que je sais que vous faites la différence entre la culture française et anglo-saxonne.
Il y a évidemment une donne culturelle. Mais je trouve pas ça très intéressant comme prisme. C'est un peu un cliché. Il a en partie sa vérité. Mais franchement, ça, c'est pas très éclairant de se dire ça. Parce que mieux vaut s'attacher à la singularité de notre situation, à la particularité de ce que je ressens. Mmh. Parfois, par exemple, c'est très intéressant. On ressent un fort sentiment d'échec, alors que notre échec n'est pas très grand. Mmh. Et alors, plein de gens vous disent « Oh, c'est pas grave, pourquoi t'en fais une maladie, t'as juste pas eu ta promotion, t'as juste divorcé comme un couple sur deux à Paris. » Et moi, je suis pas d'accord. Parce que je pense pas qu'il faille essayer de gommer comme ça et de passer dessus. Et je pense qu'au contraire, il faut s'interroger et accueillir ce sentiment d'échec pour savoir ce qu'il a à me dire de ce qui compte pour moi. Mmh. Si, par exemple, je vis très très mal avec un très fort sentiment d'échec et mon divorce, eh bien, il faut que j'entende pourquoi je le vis si mal, pour mieux me connaître, et finalement, après, mieux réussir, on va dire, ma vie, en ayant des projets, des ambitions qui sont plus conformes à mon véritable désir. Véritable désir que parfois je ne peux mesurer que dans l'expérience de l'échec. Mmh. Donc, moi, je vous dirais pas, comme certains, mais non, c'est pas grave, arrête de le plaindre. Je vous dirais plutôt, écoute, essaye d'interroger pourquoi ça te fait mal, là où ça te touche, et à partir de ça, tu vas construire quelque chose d'intéressant.
Et il y a cette pensée aussi de dire que quand on a raté, on est un raté. Alors qu'en fait, c'est pas forcément la même chose, il me semble.
Oui. Alors, tout ça, c'est vraiment ce que je développe dans mon livre qui s'appelle « Les vertus de l'échec ».
Ouais, exactement.
Et la thèse dominante du livre, c'est d'avoir une approche existentialiste et pas essentialiste. Une approche essentialiste, c'est quand vous dites, parce que j'ai raté ceci, en fait, je suis un raté. Puisque j'ai raté l'école de commerce, je suis nul. Et c'est vrai qu'on a, en France, pour des raisons un peu compliquées historiquement, un penchant essentialiste. Et contre ça, il y a des philosophes existentialistes, comme Sartre, par exemple, qui disent, voilà, il n'y a pas d'essence, en fait. À l'intérieur de toi, il n'y a pas un noyau, il n'y a pas une identité, il n'y a pas une monade. Ta vérité de sujet, elle se construit dans les liens que tu tisses avec les autres, avec le monde, avec les choses, avec les animaux, avec le ciel. Donc, tu ne peux pas être nul, parce que tu n'es pas. En revanche, ce qui va se passer, c'est que tu vis une expérience, échec, succès, ou souvent mélange des deux. Et la question, c'est qu'est-ce que tu vas devenir par cette expérience ? C'est ça l'existentialisme. Du coup, la question n'est pas qu'est-ce que je suis parce que j'ai raté, mais qu'est-ce que je vais devenir en faisant quelque chose de mon ratage ? La question n'est pas qu'est-ce que je suis parce que j'ai réussi, mais qu'est-ce que je vais devenir en faisant quelque chose de ce succès ? C'est-à-dire un projet, on est toujours comme ça, au devant de soi, jeté dans l'aventure du monde, en train de sortir de soi et non pas d'essayer d'extérioriser quelque chose qui serait en soi et qu'il n'y aurait qu'à faire sortir. Et on en arrive directement au livre d'après que j'ai écrit, qui s'appelle « La confiance en soi », qui pour moi est la conséquence, c'est que il ne faut pas, enfin je ne crois pas, que la confiance en soi soit la confiance en un moi que j'aurais à l'intérieur, qui serait un noyau, un joyau, un bijou, une essence, et qu'il n'y aurait qu'à extérioriser. Comme Sartre, mais aussi comme Freud, comme Lacan, comme plein de gens, je ne pense pas qu'il y a une essence au fond du moi. Il y a une multiplicité de possibilités, d'affects, une complexité hétéroclite, qui fait que ce qu'il faut, c'est sortir de soi, s'ouvrir au monde, et trouver la confiance en tissant des relations, des liens, avec des activités, des gens, évidemment, le monde aussi, hein. Et c'est ça que Sartre résume dans un titre un peu technique qui s'appelle « La transcendance de l'ego », mais qui veut exactement dire ça, c'est que mon ego, il n'est pas en moi, à l'intérieur de moi, il est transcendant, c'est-à-dire qu'il est hors de moi dans la totalité des liens que je tisse et retisse avec les autres.
Mais d'ailleurs, la confiance en soi, c'est pas une conséquence de l'audace, quelque part ?
Conséquence de l'audace...
C'est-à-dire le fait d'oser faire quelque chose ?
Oui, enfin, c'est parfois une conséquence, c'est-à-dire qu'il y a une situation où... j'ai confiance parce que je me dis que j'ai été capable d'oser, même si le résultat n'est pas bon. Mais parfois, il y a aussi le contraire. C'est que je me retrouve audacieux parce que j'ai confiance, mais peut-être pas tellement en moi, ça me choque un peu, mais j'ai confiance en l'action. Dans le fait que l'action elle-même pourra produire des bons résultats, alors que si j'agis pas, il se passera rien. Je peux aussi avoir confiance en la chance. Je peux avoir confiance en les autres que je vais rencontrer alors que j'agis et qui peut-être vont m'être d'une grande aide. Je peux aussi avoir confiance en mon destin. Je peux avoir confiance en en la qualité d'un instant. Je peux avoir confiance en la beauté du ciel. Il y a plein de choses qui donnent confiance et qui ne sont pas moi. Si bien que ma thèse dans ce livre, et c'est une thèse philosophique, le livre s'appelle « La confiance en soi, une philosophie ». C'est une psychologie, mais je montre que c'est aussi une philosophie de l'action. Et la thèse, c'est qu'au fond, la confiance en soi n'est jamais simplement la confiance en soi. Il y a tellement d'autres choses que le moi qu'il faut que j'aille rencontrer pour me nourrir d'une confiance, finalement, en moi.
Et alors, il y a un sujet que vous abordez qui est la puissance. Moi, j'ai fait un épisode sur les sorcières. On parle beaucoup des sorcières, de la puissance féminine.
Bien sûr, avec Mona Chollet.
Alors, je ne l'ai pas fait avec Mona Chollet, je l'ai fait avec Odile Chabriac, en l'occurrence. Ouais. Mais bon, elles ont fait toutes les deux un bouquin avec une essence un peu différente. Mais comment on fait pour devenir puissant, quelque part? Parce que la confiance en soi, c'est aussi ça. Il y a une forme de puissance qui s'installe, non?
Alors, attends, oui. Enfin, puissance.
Enfin, je vais peut-être un peu vite.
Non,
mais...
non, j'aime bien le mot puissance, mais il faut l'entendre au sens grec.
D'accord.
Autrement, ça fait un peu arrogance. Le sens grec, c'est le potentiel qui est en moi et que je vais actualiser par les rencontres que je fais. Et en misant aussi sur la contingence, sur le fait que tout n'est pas écrit. Alors, en revanche, à ne pas confondre avec, avec une surpuissance ou avec une arrogance, peut-être la distinction qu'on est en train d'évoquer, c'est entre être sûr de soi et avoir confiance en soi. Pour moi, être sûr de soi, c'est plutôt bête, parce que la vie est compliquée, parce qu'on peut se planter, parce que c'est souvent être aveugle à la complexité des choses, être trop sûr de soi. Et surtout, on n'est pas très empathique à l'égard des autres et on devient parfois assez con, quoi, assez suffisant. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'avoir confiance en soi si ça n'est pas être sûr de soi? Eh bien, c'est accueillir son doute d'une manière qui soit un moteur et pas un frein. C'est accueillir l'incertitude en n'en ayant pas peur, en n'étant pas trop paralysé par la question de l'incertitude et par la réalité de l'incertitude. D'où la thèse de mon livre, c'est de dire vous n'êtes pas sûr de vous. Eh bien, c'est tant mieux. Parce qu'il y a d'autres choses qu'il faut rencontrer qui vont vous donner confiance, notamment les autres, évidemment. Il y a cultiver les bons liens, aller voir les personnes qui vont vous rassurer, vous réveiller, vous faire confiance, vous responsabiliser, tout ça. Et puis aussi, il y a le monde, très important. Vous apercevez très souvent que, alors que vous êtes angoissé, quand vous marchez dans la campagne, même sur un trottoir, et que vous avez un rapport au monde heureux, quoi, joyeux, que vous êtes habitant du monde, alors la confiance revient. Mais ce point, finalement, mérite qu'on s'y arrête. Comment expliquer que, alors que j'ai peur parce que j'ai un rendez-vous à 16h, que je me sens mal, j'ai mal au ventre, etc., et j'ai telle compétence, je vais avoir affaire à telle personne un peu malveillante éventuellement, et donc j'ai pas confiance en moi, et puis parce que je marche dans la rue, j'écoute une bonne musique, mon pas est régulier, je sens le monde sous mes pieds, enfin bref, j'habite un peu ce trottoir, ce monde, soudain la confiance revient. Ça veut quand même dire que c'est pas une confiance simplement en soi, que c'est pas que de la compétence, parce que rien n'a changé de la compétence, rien n'a changé même des autres que je vais rencontrer. Juste, j'ai rencontré le monde, et ça m'a mis en confiance. Et je vous rappelle que la naissance, c'est ça. La naissance, c'est une venue au monde. Et donc, à partir du moment où je suis né et où je suis venu au monde, j'ai en retour une confiance minimale en ce monde. Et ça explique pourquoi, quand je rencontre ce monde, promenade à la campagne, contemplation d'un ciel, ou même déambulation dans une ville, ça me rappelle qu'il y a quelque chose dans ce monde qui m'attend, quelque chose dans ce monde qui ne m'est pas hostile. Or, souvent, la crise de confiance, on a l'impression d'une hostilité, d'être victime d'une forme d'hostilité du monde.
Il me semble que vous dites aussi que la confiance en soi, ça arrive à travers l'expérience.
Ouais.
Et du coup, vous opposez un petit peu le monde digitalisé, d'une certaine mesure, parce qu'en fait, on enlève l'expérience quand tout est automatisé, par définition.
C'est vrai.
Comment vous articulez cette idée?
C'est vrai que l'expérience concrète des choses, le fait de les manipuler avec ses mains, et de produire manuellement, les mains sont intelligentes, des résultats dans le monde, c'est incroyable comme ça donne confiance. Si vous faites, vous réparez un meuble, si vous faites, vous cultivez un jardin, si vous faites la cuisine, si vous faites du bricolage, et puis a fortiori si vous faites une œuvre d'art de vos mains, tout ça donne confiance. Pourquoi ? Parce que, comme le disait Aristote, les mains prolongent l'esprit, et on a un rapport au monde qui, quand il est manuel, est aussi spirituel. Et puis, il n'y a rien qui est plus agréable que de voir les effets réels dans le monde de son action. Du coup, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que parfois, on a un métier où on ne fait pas grand-chose de ses mains. Un métier de cadre, par exemple, où on assiste à des réunions, on donne son avis, on répond à des mails, mais on n'a pas ce rapport concret aux choses. Et puis aussi, on est sur des réseaux sociaux où tout ça est très est à la surface, quoi. On a ce pouce qui glisse, on fait défiler des images, qui d'ailleurs souvent sont un peu agressives. Souvent, en termes de confiance en soi, on se fait mal, hein, sur Instagram ou sur Facebook. On a l'impression que la vie des autres est plus belle, qu'elle est, alors que souvent elle est juste mieux mise en scène, mais bon, passons. Et tout ça a fait que on arrive à une injonction paradoxale de l'époque, qui nous dit en même temps, ayez confiance en vous, parce que votre destin vous appartient, et parce que vous êtes responsable de votre succès, une sorte de pensée libérale dominante aujourd'hui, et dans le même temps, cette époque qui nous enjoint à la confiance en soi, un peu tire le tapis sous nos pieds, sur lequel d'habitude se fonde cette confiance, ce tapis étant le rapport concret aux choses, le travail manuel, et finalement l'épaisseur d'une quotidienneté qui me met en contact avec le monde. Et donc nous, on est un peu en train de surfer à la surface du monde, on ne fait plus grand-chose de ses mains, et on peut résumer tout ça d'un exemple très concret. Si vous avez froid et que votre journée a été pourrie et que vous êtes en crise de confiance et que vous avez chez vous un petit enfant qui a froid et que vous faites un feu en allant couper du bois, porter des bûches, allumer le bois, entretenir les braises et que finalement vous avez fait un superbe feu, bah ça vous met en confiance et ça répare votre âme blessée. Et quand vous arrivez dans votre ville et que vous réglez un thermostat avec une commande vocale, bah il se passe pas ça.
Non.
Vous avez plus ce gain en confiance. Donc une proposition très concrète, c'est de retrouver un rapport à la main, quoi. Enfin, à la main. À la main, pleine d'esprit. Hein.
Bien sûr.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tant de gens font de la cuisine, font des potagers, se mettent à faire de la poterie, font de la sculpture. Et ils ont bien raison. Ça sauve, ça répare beaucoup un cœur blessé, hein, de faire quelque chose de ses mains.
Donc ça, c'est un vrai conseil.
Ouais, un conseil très concret, ouais.
Mais c'est vrai qu'en plus, j'ai la sensation que... En tout cas, moi, je le vois autour de moi, que les gens retournent dans le concret, dans le manuel, que ce soit pour devenir prof de yoga ou faire de la poterie ou peu importe, mais un retour à la matière, en fait.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Et j'ai une question, je me posais la question, comment ça se fait que l'homme, Charles Pépin, écrit un bouquin sur la confiance en soi? Parce qu'en fait, quand on est philosophe, il y a des sujets, hein, il y en a plein. Et d'ailleurs, vous avez écrit des bouquins sur pas mal de sujets. Mais alors, pourquoi l'échec et pourquoi la confiance en soi?
Alors, pourquoi l'échec? Je pense que ça vient de l'enfance, que je me suis souvent senti en échec et j'ai eu souvent un fort sentiment d'être un loser à différentes époques de ma vie, surtout l'enfance et l'adolescence. Et que ça entrait en contradiction avec le fait que je n'avais pas l'air de ça, que personne ne mesurait cette fragilité, que j'avais plutôt l'air de réussir tout facilement. Donc il y avait une sorte de hiatus entre ce que je ressentais assez profondément et l'impression qui se dégageait. Et peut-être que c'est aussi pour ça que ça m'a tellement plu de retrouver ce thème et de le travailler philosophiquement. Après, il y a une autre raison un peu plus théorique, c'est que ça me paraissait quand même bizarre qu'il n'y ait pas de livre de philosophie sur l'échec, tellement l'échec est dans nos vies. Et enfin, sur la confiance, je me suis rendu compte que c'est ce que j'adorais dans mon métier de prof de philo que je fais depuis une vingtaine d'années, beaucoup plus que d'enseigner la philosophie de Descartes ou de Kant, on va dire rigoureusement. J'aime donner confiance, au fond, à cette jeunesse. Et donc je me suis rendu compte que c'était peut-être ça aussi l'acte philosophique, hein, donner confiance. Hein. Quand vous avez les philosophes des Lumières qui disent « pense par toi-même, écoute ta raison », ça veut dire « aie confiance en ta raison ». Quand vous avez Socrate qui dit à un jeune esclave « mais si tu le sais, t'as pas besoin de moi », il lui fait confiance. Quand vous avez Sartre qui dit qu'il a confiance dans la liberté de chacun. Et donc au fond, cette thématique de la confiance s'est un peu imposée pour traduire toute ma vision de l'existence au fond. Et tous les thèmes que j'avais travaillés auparavant, la beauté, le plaisir de penser, la joie, finalement me paraissaient en fait parler de la confiance à chaque fois par une fenêtre particulière.
D'accord. Et alors maintenant que vous avez réussi, ça me fait penser à un sujet que moi je vois chez moi déjà et puis aussi beaucoup autour de moi, qui est le complexe de l'imposteur.
Ah oui.
Est-ce qu'on peut s'en parler un tout petit peu de de l'imposteur? Comment vous l'envisagez? Parce que vous, en fait, si vous avez eu la sensation d'échouer quand vous étiez jeune et qu'aujourd'hui, vous êtes plutôt dans le succès, en tout cas, c'est un point de vue extérieur, parce que moi, je suis à l'extérieur de vous, évidemment. Donc, c'est mon point de vue sur vous. En tout cas, c'est une image, voilà. Donc, après, c'est pas forcément la réalité, évidemment. Ce complexe de l'imposteur, vous, c'est un truc que vous ressentez et comment vous l'analysez? Alors, de manière pas forcément sur vous, mais de manière plus large.
Disons que, d'abord... J'ai écrit 13 livres, il y a eu beaucoup de livres qui n'ont pas marché, alors que je les trouvais très bons. Donc ça m'a un peu vacciné contre le fait d'accorder trop de crédit objectif à ce qui est simplement un nombre de ventes et un nombre d'articles, quoi. Donc j'ai eu beaucoup de distance par rapport à ça. Et et je me suis souvent senti, en tout cas, pas à ma place. Je ne sais pas si c'est ça que vous appelez par complexe de l'imposteur. Mais moi, j'ai toujours eu ce problème dans la vie en général, quoi, de ne pas me sentir à ma place, d'être toujours... on me demande des choses et je n'ai pas l'impression que je pourrais y répondre mieux que d'autres. Donc, a fortiori, quand on vous parle comme si vous étiez un philosophe, que vous aviez la sagesse, bah, je me sens encore plus pas à ma place qu'avant, quoi. Du coup, par rapport à ce sentiment d'être un peu déplacé, quoi, que j'ai toujours eu dans tous les milieux sociaux et dans tous les milieux professionnels, il y a quelque chose qui me fait du bien, c'est quand j'écris ou quand je fais une conférence. Là, je suis à ma place. C'est-à-dire, on sort des grandes généralités, enfin, je veux dire, on n'est plus dans le monde des grandes généralités, on n'est plus dans une fonction sociale qui vous est plaquée dessus extérieurement, on est dans une production d'une œuvre, en l'occurrence quand c'est un livre, ou un rapport aux gens très concret, très sensible, quand on leur parle. Et là, je me sens à ma place. Et là, j'ai l'impression que, au moins, quand j'écris un livre, eh ben, je sais ce que je fais. Et quand je parle aux gens, ben, je sais à qui je parle et je sais ce que je dis. Et donc, c'est pour ça que j'adore ce métier aussi. Justement, pour échapper au complexe de l'imposteur, au moins, le livre écrit, il est là, et puis on peut le lire, et puis la parole, elle est là, et les gens l'entendent.
Et pour avoir de la confiance en soi, est-ce qu'il justement, il ne faut pas sortir du cadre, est-ce qu'il ne faut pas se remettre des défis? Est-ce ce qui veut dire aussi forcément être ressentir ce complexe de l'imposteur, c'est-à-dire, admettons, quand vous avez écrit votre premier bouquin, ouais. Vous n'aviez jamais fait de bouquin, donc bah, quelle est votre pertinence? Moi, je vois quand même beaucoup de ça, de gens qui me disent, oui, mais admettons, pour faire un podcast, ou pour faire un blog, ou peu importe ce que c'est, ou des vidéos sur YouTube, ou lancer une nouvelle activité, ils se disent, oui, mais c'est quoi ma pertinence à moi, en fait? Pourquoi, ouais, qu'est-ce que moi, je vais apporter de plus?
Vous savez, ce sentiment un peu d'illégitimité me paraît la moindre des politesses. Je trouve ça exaspérant, les gens qui sont trop où ils sont. Ça m'a toujours choqué. Ça, vous avez des gens, ils sont là où ils sont. Souvent, c'est social, en plus.
C'est ça. Ouais.
Et en fait, ça les dérange pas de coller à leur étiquette sociale, de coller à leur milieu social. Alors, je vais prendre des exemples parce que c'est désobligeant, mais vous avez même parfois aussi par rapport à certaines religions. Hein, vous avez des gens, en fait, ils sont ce qu'ils sont. Mais moi, je comprends pas. Moi, j'arrive pas à être ce que je suis. D'abord, je sais pas ce que je suis. Moi, je me sens très visé par la phrase de Sartre qui dit « L'homme est cet être qui est ce qu'il n'est pas et qui n'est pas ce qu'il est ». C'est-à-dire qu'il y a toujours une illégitimité.